Eschatologie et prophétie, une série d'émissions proposées par le Père François Dominique de la communauté des Capucins de Bastia.
Amis auditeurs de Radio Salve Regina, bonjour, vous nous retrouvez pour un nouveau cycle d'émissions, Eschatologie et prophétie. Nous sommes heureux de nous retrouver en ce début d'année pastorale. Et puisque nous avançons vers le mois d'octobre, vers la fête du rosaire, bien nous allons aujourd'hui reprendre à travers cette émission un peu cette pratique et cette dévotion du Saint-Rosaire. Alors voilà, parlons aujourd'hui donc de Notre-Dame du Rosaire, cette belle appellation que l'on attribue aussi à la Vierge Marie. C'est un des titres donnés à la Vierge Marie qui se présente aussi sous ce vocable à Saint Dominique au XIIIe siècle et qui a été aussi proclamé dans le milieu populaire, on va dire, avec l'ordre des Dominicains, qui a propagé cette dévotion par l'intermédiaire de cette prière du chapelet, cette méditation sur les mystères de la vie de Jésus avec Marie. Puisque, comme nous le savons, nous connaissons la composition de cette prière du rosaire, qui part depuis le début du mystère du salut, avec bien sûr l'Annonciation, jusqu'au terme du salut, qui est le couronnement de la très sainte Vierge Marie au ciel. À travers toutes ces méditations, ces 20 mystères, puisque à l'origine le rosaire donc comptait 15 mystères, les mystères joyeux, les mystères douloureux, les mystères glorieux, et donc le pape Jean-Paul II a voulu instituer aussi une autre série de mystères qui s'appelle les mystères lumineux, que nous connaissons désormais bien, le baptême de Jésus au Jourdain, les noces de Cana, la prédication, l'appel à la conversion, la transfiguration et le mystère de l'Eucharistie. Donc tous ces mystères qui concernent aussi la vie publique de Jésus. Et donc l'avantage de cette prière, c'est que, eh bien justement, elle nous aide aussi à entrer dans la méditation de ce qu'on appelle l'histoire du salut, qui commence justement avec l'incarnation. Donc le mystère de l'Annonciation, où le Verbe prend chair dans la très sainte Vierge Marie, où Marie devient mère de Dieu, première porteuse du Christ au monde, et la première destinataire, c'est sa cousine. La Vierge va donc auprès de sa cousine Élisabeth, et à peine Élisabeth voit Marie s'approcher, qu'elle s'écrie « Comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?» Donc elle reconnaît que Marie est porteuse déjà du mystère du salut, porteuse du Verbe de Dieu. Donc elle a cette révélation aussi du mystère de l'incarnation. Alors, donc cette prière du rosaire, eh bien elle nous aide à intégrer, on peut dire, l'essentiel de la vie du Christ, mais qui est aussi marquée par l'histoire du salut. Rappelons-le, qui démarre dès le livre de la Genèse. Tout de suite après la faute, Dieu s'adresse au serpent en disant que la descendance de la femme t'écrasera la tête, tu la meurtriras au talon. Il y aura une descendance donc de la femme qui sera victorieuse du mystère du mal et du pouvoir des ténèbres, du pouvoir du serpent. Donc c'est pour ça que le mystère du salut, bien sûr pour nous, il se réalise pleinement dans le mystère du Christ, l'Annonciation et puis tous les mystères de la vie de Jésus jusqu'à la croix. C'est là que s'accomplit toutes les Écritures, comme le dira lui-même Jésus sur la croix. Mais déjà, Dieu a un plan de salut sur l'homme tout de suite après la faute. Il ne peut pas, on pourrait dire, comme supporter que sa créature soit perdue, soit égarée. Il veut la ramener près de lui. Il veut la faire triompher. Et donc, voilà, c'est déjà la miséricorde du Seigneur qui est à l'œuvre. Alors, cette histoire du salut, eh bien, elle passe aussi par tout ce grand pèlerinage aussi de l'Ancien Testament, hein, à travers les textes historiques aussi, qui nous montrent ce pèlerinage plus ou moins laborieux, hein, du peuple d'Israël, mais en même temps toujours avec la présence du Seigneur à ses côtés, qui ne cessera de renouer aussi l'alliance avec son peuple, hein, malgré ses infidélités, malgré ses péchés, malgré ces idolâtries, hein, qui sont dénoncées aussi dans la Bible sous la forme d'adultère. Dieu les compare à des adultères parce qu'elles trompent l'amour. Eh bien, le Seigneur donc fidèle à son alliance, fidèle à sa promesse aussi, ben de faire triompher le bien sur le mal. Et bien sûr, il nous donne son Fils. Hein. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour que nous soyons sauvés. Alors nous commençons les mystères du rosaire par justement ce mystère de l'incarnation et ainsi donc toute la vie du Christ avec Marie aussi sur la terre. Et puis ce chemin, eh bien, nous découvrons en méditant mystère après mystère que eh bien, c'est le chemin de la rédemption de l'humanité. C'est le chemin de la rédemption de l'humanité qui passe justement à travers cette humanité assumée par Jésus. Et aussi, qui nous est montré à travers la Vierge Marie. Il y a des mystères qui concernent proprement la Vierge Marie, comme les deux mystères qui finissent le rosaire, par exemple, l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie, le couronnement de la Vierge Marie. Donc, ce ne sont pas uniquement des privilèges qui regardent Marie, mais c'est pour montrer aussi le destin de l'humanité. Dieu veut nous sauver et il veut que nous soyons aussi auprès de lui, que nous rendre victorieux. Le mystère du salut, c'est pas uniquement pour cette terre, bien sûr, c'est d'abord et avant tout pour la vie de communion avec le Seigneur et donc qui se vit en plénitude au ciel. Nous sommes faits pour le ciel. Et donc Dieu nous élève jusqu'au ciel. Et le couronnement, eh bien, c'est aussi justement, bien, c'est ce couronnement du mystère du salut qui fait que même notre corps aussi est glorifié. À l'image du Christ qui est mort et ressuscité, nous aussi nous ressusciterons, dit saint Paul, et nous sommes faits donc pour participer à cette création nouvelle dans la Jérusalem céleste, la Jérusalem d'en haut. Donc, on voit donc que c'est aussi cette sanctification de l'humanité tout entière. C'est le plan de Dieu sur l'humanité qu'il veut restaurer. Alors, cette prière du rosaire, eh bien, nous la retrouvons bien sûr à travers l'épisode de la vie de saint Dominique, qui a cette apparition de la Vierge qui lui donne cette chaîne du rosaire, avec laquelle aussi il va se servir comme une arme spirituelle justement pour combattre les hérésies du catharisme. Le catharisme, c'est cette hérésie qui était en vigueur dans le sud de la France et en Espagne, en Italie aussi, on la retrouve. Mais c'est surtout le bassin où ça s'est développé. Donc bien sûr, c'est le sud-ouest de la France, on pourrait dire. Donc saint Dominique va combattre cette hérésie qui fait des ravages par la prédication du rosaire. Et il va joindre à la prédication la prière. C'est ça qui est magnifique, c'est que non seulement c'est une annonce du mystère du salut, mais en même temps, eh bien, c'est une prière. Donc nous entrons, on pourrait dire, dans une contemplation. Une prière qui s'appuie aussi dans sa forme répétitive sur la prière traditionnelle contemplative qui est la prière du cœur, que l'on retrouve déjà dès les pères du désert, les premières expériences érémétiques de ceux qui se sont retirés au désert pour vivre dans la contemplation, eh bien, ont tout de suite compris que bien il fallait une prière qui les maintienne en contact permanent on pourrait dire, avec le Seigneur, pour ne pas se laisser gagner par l'esprit mauvais, et pour combattre les tentations. Quand nous sommes assaillis justement par toutes sortes de tentations qui veulent nous éloigner de Dieu ou qui veulent nous pousser au péché, et nous pouvons avoir recours à cette prière du cœur. Et on la connaît sous la forme de la prière du pèlerin russe. « Seigneur, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. » Mais le rosaire, donc avec ces « Je vous salue Marie » que l'on enchaîne à travers des dizaines, eh bien c'est aussi c'est cette forme de prière du cœur, prière donc répétitive qui n'est pas comme on pourrait le penser ou comme certains le disent un rabâchage. Non, c'est vraiment entrer dans une contemplation, se laisser transporter justement par cette prière et par, on pourrait dire, cette répétition, eh bien, se laisser aussi transporter dans la présence de Dieu, nous élever jusqu'à lui. Et donc, cette prière qui s'appuie bien sûr fondamentalement sur les deux grandes prières chrétiennes, le Notre Père, le Je vous salue Marie, et entrecoupé du gloire à Dieu, du gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, cette prière, cette invocation à la très sainte Trinité, compose cette prière du chapelet. Et puis là aussi, en prenant cette prière comme une prière quotidienne, eh bien nous entretenons un lien particulier bien sûr avec la Vierge Marie. Elle nous prend vraiment comme ses enfants. Et le Padre Pio, qui était un fervent dévot de la prière du rosaire et qui invitait bien sûr à prier le rosaire, eh bien il disait que c'est le cordon ombilical qui nous lie à la mère, à Marie, notre mère. Et donc ce cordon ombilical, c'est une belle image, mais c'est l'image aussi de la vie. C'est par là que la mère nourrit son enfant, qu'elle lui transmet aussi tout ce qui est nécessaire à sa vie. Et donc c'est ce lien de communication entre la mère et le fils. Donc voilà, prendre en main cette chaîne du rosaire, eh bien, c'est aussi nous tourner avec Marie vers le mystère du salut. Alors je vous propose maintenant de faire une petite pause musicale en reprenant ce chant qui est aussi composé à travers la prière de Saint Bernard, Regard de l'étoile, qui nous invite justement à tourner notre regard vers Marie quand nous sommes justement dans les tribulations, quand nous sommes dans l'épreuve, quand nous sommes pris par toutes sortes de tentations, dans le doute, etc. Et il nous faut regarder vers Marie, vers l'étoile. Alors nous faisons cette pause musicale, nous nous retrouvons juste après.
Thank you.
Voilà, alors après ce beau chant qui nous invite aussi à regarder vers Marie, regarder vers l'étoile, nous poursuivons notre émission aujourd'hui, Eschatologie et prophétie, sur Notre-Dame du Rosaire en particulier. Alors, Notre-Dame du Rosaire est devenue une fête liturgique que l'on célèbre le 7 octobre de chaque année. Cette fête donc s'appelait tout d'abord Notre-Dame de la Victoire, pour fêter la victoire de Lépante le 7 octobre 1571. Bataille qui unit l'Espagne, la République de Venise et les États pontificaux contre l'envahisseur ottoman. Victoire donc qui fut attribuée à la récitation du rosaire, demandée alors par le pape Saint-Pie V. Il faut noter que Saint-Pie V était dominicain, donc issu aussi de cette tradition de la prière du rosaire, hein, particulièrement aussi comme une arme spirituelle. Comme on l'a dit, déjà Saint Dominique se sert de cette prière et de ces méditations du mystère du rosaire pour combattre les hérésies. Et le pape Saint-Pie V se tourne vers cette prière aussi pour en faire une arme spirituelle contre la guerre contre l'envahisseur ottoman qui menaçait donc cette partie de l'Europe. Alors Saint-Pie V donc va demander au peuple chrétien de prier avec ferveur le mystère du rosaire, la prière du rosaire. Et donc bien sûr la victoire va arriver. Cette victoire, il va l'attribuer bien sûr à la Vierge Marie qui a répondu à cette prière fervente du peuple chrétien qui s'est tourné vers elle à travers cette prière. Et puis donc il instituera donc cette fête de Notre-Dame de la Victoire qui est devenue par la suite aussi par son successeur Grégoire XIII la fête du Saint Rosaire fixée au premier dimanche d'octobre. Il a donc été institué pour méditer aussi les mystères mariaux et s'unir à la vie de la Vierge, ainsi que de se souvenir secondairement de la libération de l'Occident devant la menace ottoman. Plus tard, le pape Clément XI étendit la fête du Saint-Rosaire à l'ensemble de l'Église catholique de rite latin en 1716, à la suite de la victoire, cette fois aussi encore, la victoire des impériaux sur les Ottomans. Et Saint-Pie X en fixa la fête au 7 octobre en 1913. Le pape Jean XXIII, à son tour, changea une nouvelle fois son nom en Notre-Dame du Rosaire en 1960. Alors, tous ces épisodes historiques sont importants parce que ça nous aide à comprendre vraiment que cette prière, elle est associée au combat. Elle est associée au combat spirituel. Et c'est pourquoi aussi la Vierge Marie, dans toutes ses apparitions, qu'elle manifestera en particulier en Europe, mais partout dans le monde, elle demandera la prière du rosaire. Elle incitera beaucoup à prier le rosaire justement pour la conversion des pécheurs, pour éviter même les guerres, comme elle l'a dit. Et on voit à travers les épisodes qu'on a nommés que déjà la victoire a été acquise au peuple de Dieu par l'intermédiaire de la prière et en particulier de cette prière du rosaire. Alors, c'est pas une prière magique, c'est comme toujours, la prière n'est pas un rite magique, mais il faut bien comprendre que pourquoi il y a une efficacité dans cette prière, et bien parce que elle se centre justement sur l'essentiel du mystère du salut. Elle nous centre sur le Christ. Cette prière, comme le rappellera Jean-Paul II, on le verra plus tard dans sa lettre Rosarium Virginie Mariae, eh bien, c'est une prière qui est centrée sur le Christ, sur le mystère du salut qui nous est donné en son Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Et donc, c'est un rappel aussi du triomphe du Christ sur le pouvoir des ténèbres. C'est pour ça que c'est une arme spirituelle. Parce que comment lutter contre l'adversaire, notre adversaire qui il n'est pas un adversaire de chair, comme le dit Saint Paul, mais qui est un adversaire spirituel, eh bien, c'est justement en faisant mémoire de la victoire du Christ par sa croix mais déjà présente aussi dès son incarnation. À partir du moment où le Fils de Dieu rentre dans le monde, eh bien, le démon est vaincu. Et on verra au cours de la vie publique de Jésus certains épisodes qui nous sont racontés par les évangiles, où le démon se présente devant Jésus. « Ah, es-tu venu pour nous perdre ?» Oui, bien sûr que voilà, le Christ est venu pour nous sauver et donc pour triompher de l'ennemi. Et chaque fois que eh bien, nous nous tournons vers ce mystère du salut, et la prière du rosaire, c'est encore une fois un moyen privilégié pour ça, eh bien, nous faisons mémoire de cette victoire du Christ. Et non seulement mémoire, mais nous la réactualisons, on pourrait dire, dans notre vie. Surtout si nous sommes chrétiens, nous sommes sauvés par le baptême qui nous plonge dans la mort et dans la résurrection du Christ. Et eh bien, voilà, chaque fois que l'on fait mémoire de notre baptême, de cette marque du salut qui nous est donnée, eh bien, nous sommes victorieux. Alors c'est pour ça que la prière du rosaire est une arme spirituelle. Et ensuite, elle est une arme aussi parce qu'elle nous met sous la protection de la Vierge Marie. Elle nous met, on pourrait même dire, sous son manteau, pour son manteau virginal, et son manteau aussi voilà, qui nous enveloppe et qui nous protège. Et puis Marie, c'est celle aussi qui écrase la tête du serpent, comme on le voit aussi dans cette image de l'Apocalypse au chapitre 12. C'est la femme revêtue du soleil, la lune sous les pieds, et qui écrase la tête du serpent. Donc, avec Marie, eh bien, voilà, nous sommes aussi protégés, parce que Marie a toujours échappé quelque part au démon. Marie est une créature, Marie n'est pas un demi-dieu, elle n'est pas une divinité, loin de là, bien sûr. Marie est une créature comme nous. Et elle est l'enfant bien-aimé du Père, qui a eu des privilèges, c'est sûr, comme l'Immaculée Conception. Mais en même temps, eh bien, elle a dû aussi donner sa part de coopération. Déjà, on le voit à l'Annonciation, Dieu attend le oui, le fiat de Marie pour que le mystère de l'incarnation se réalise. Donc il ne violente pas la liberté de Marie. Et Marie a combattu aussi en gardant le regard fixé sur Dieu, sur voilà, même quand elle ne comprenait pas tout. Dans le mystère de Dieu et dans le pèlerinage aussi de la vie de son fils. Elle a fait confiance, elle a gardé la foi jusqu'au bout. Et elle est restée fidèle jusqu'au bout. Donc c'est en cela qu'elle a échappé vraiment à toutes les pièges et toutes les tentations du démon. Donc nous mettre sous son aile, sous sa protection, eh bien sûr c'est aussi nous aussi échapper au mystère du mal qui agit à travers voilà, ces actions du tentateur. Par ailleurs, il nous est dit aussi que, nous est rapporté à travers certains prêtres qui exercent le ministère de l'exorcisme, cette force du rosaire dans la prière de délivrance. Et le démon ne supporte pas l'invocation à la Vierge Marie, parce que justement c'est sa grande défaite. Et donc, et puis, elle a ce rôle de mère, donc qui protège ses enfants. Donc, elle ne supporte pas, bien sûr, la Vierge Marie. Elle ne supporte pas qu'on prie le rosaire. Certaines fois, même à l'intérieur même des prières de délivrance ou de l'exorcisme proprement dit, eh bien, la libération intervient. Lorsque eh bien, on peut faire une pause et commencer à réciter avec la personne troublée ou les personnes qui sont autour, le chapelet. Dès que l'on prend le chapelet en main, eh bien, des fois voilà, c'est là qu'apparaît la délivrance. Donc voilà, c'est une arme vraiment, une arme spirituelle. Et la Vierge Marie, encore une fois, nous l'a rappelé fortement. En particulier aussi bien sûr dans ces lieux de sanctuaires principaux comme à Lourdes, comme à Fatima évidemment, où elle se présente aussi comme Notre-Dame du Rosaire. Et d'ailleurs, la fête principale qui conclut les apparitions de Marie se trouve au mois d'octobre, le mois du Rosaire, le 13 octobre. Où Marie Delia se présentera justement aux enfants comme Notre-Dame du Rosaire, avec ce rosaire à la main et son cœur au milieu de sa poitrine, son cœur rouge et voilà, qui est signe de vie. Et avec cette promesse, eh bien, à la fin, mon cœur immaculé triomphera. Donc, voilà, prenons nous aussi bien cette arme du rosaire chez nous. Récitons souvent et avec ferveur cette prière du rosaire. Alors, on peut le faire à travers ces formes liturgiques, déclinées dans les jours de la semaine. Les mystères joyeux le lundi, les mystères douloureux le mardi, les mystères glorieux le mercredi, les mystères lumineux le jeudi, les mystères douloureux le vendredi. Et puis le samedi, on reprend les mystères joyeux en l'honneur de la Vierge Marie, justement, puisque c'est le jour de la semaine qui lui est consacré, et le dimanche, mystère glorieux. Donc on retrouve bien sûr dans tous les manuels de prière, voilà, cette déclinaison, on pourrait dire. Mais nous pouvons aussi le prier chaque jour. Nous pouvons aussi faire ces quatre chapelets par jour. Donc on peut rythmer aussi notre vie, si nous le voulons, par cette prière du rosaire. En tout cas, ce qui est important, eh bien, c'est de prier. Alors, il n'y a pas d'obligation, l'Église ne nous oblige pas, mais c'est quand même fortement conseillé pour ceux qui veulent vivre leur vie chrétienne, particulièrement aujourd'hui, dans les troubles d'aujourd'hui. Eh bien, c'est important de prendre aussi cette prière du rosaire chez nous et d'en faire aussi un instrument d'évangélisation. Nous pouvons aussi inviter quelques personnes que nous connaissons et nous pouvons prier ensemble le chapelet à la maison devant une statue de la Vierge, une bougie éclairée, etc. Donc voilà, c'est aussi un moyen d'évangélisation et surtout c'est avec les sacrements, eh bien c'est je pense un bon moyen pour vivre notre foi au quotidien à travers. Elle nous aide à méditer d'ailleurs la parole de Dieu, puisque dans chaque énumération des mystères, nous avons aussi un court passage biblique, donc qui nous invite aussi à méditer la parole de Dieu. Les mystères aussi qui nous sont donnés sont les mystères du salut, qui nous sont donnés par les sacrements. Donc, bien sûr, les sacrements sont le chemin essentiel du salut. Bien sûr que dans notre vie chrétienne, si nous n'avons pas les sacrements, eh bien, nous n'avons pas la vie, comme dit Jésus. Celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang n'a pas la vie en lui. Et donc, c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit dans le chapitre 6 de Saint Jean. Donc, les sacrements sont nécessaires à la vie chrétienne. Ils ne sont pas facultatifs. Mais en dehors de ces sacrements, eh bien, il y a aussi cette prière du rosaire qui nous accompagne et nous soutient. Alors, je vous souhaite à tous de retrouver peut-être un nouvel élan au début de cette année, de ce cycle d'année pastorale, on peut dire, dans cette prière du rosaire. Prions les uns pour les autres, prions pour notre Église, prions pour tous ceux qui sont aussi dans le combat, prions pour la conversion des pécheurs, comme la Vierge Marie nous le demande. Et ainsi, ensemble, eh bien, nous pourrons remporter la victoire et faire triompher le cœur immaculé de notre Mère, la Vierge Marie. Amen. Voilà, bonne semaine à vous tous. Et puis, nous retrouverons la semaine prochaine pour reprendre une nouvelle émission aussi d'Eschatologie et Prophétie. Bonne semaine à tous.
Eschatologie et prophétie, une série d'émissions proposées par le Père François Dominique de la communauté des Capucins de Bastia.